Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, eh bien, un entretien assez particulier parce que c'est un entretien qui, au bout d'un moment, va me dérouter. Je vais avoir l'impression d'être dans un autre concept, celui de parler boulot et uniquement boulot et plutôt être dans Job Story, un autre rendez-vous que nous avons sur Médien. Mais c'est au fur et à mesure de la conversation que je vais me rendre compte que finalement cet homme, dans la vie privée et dans la vie professionnelle, eh bien, ça ne fait qu'une seule personne, une seule existence. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Mohamed Hajmtiel, bonjour.
Bonjour, bonjour. Heureux d'être là, d'être avec vous.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous appeler docteur, mais je vais vous appeler Mohamed Hajm tout court. Parce que nous ne sommes pas dans une interview, on va dire, scientifique, médicale, mais plutôt dans un entretien humain. Voilà. Pour essayer de connaître la personne derrière le nom. Vous intervenez beaucoup dans les médias, vous avez énormément intervenu lors de la période de la Covid, vous étiez mobilisé pour donner un maximum d'informations parce que tout l'aspect psychologique était très important lors de la pandémie. Et voilà, vous aviez joué un très grand rôle de sensibilisation. Maintenant, qui est Mohamed Hajmtiel? Alors, je vais commencer par une question très large et ça va nous faire arriver petit à petit à qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être psychiatre?
Alors, est-ce que j'ai toujours rêvé d'être psychiatre? Alors, j'ai toujours rêvé, même à la maternelle, d'être médecin.
Ah oui, à la maternelle déjà.
Oui. Donc, dans les petites classes, je disais, ça c'est les instituts qui l'ont rapporté, et ça m'a suivi pendant toutes mes études, j'ai toujours rêvé, je ne me voyais pas autre que médecin. Mais par contre, psychiatre, c'est autre chose. En fait, quand j'ai eu mon bac, donc je devais normalement m'orienter soit vers la médecine, normalement vers la médecine, mais comme j'étais aussi amoureux, éperdument amoureux de la musique, je me tâtais, est-ce que je devais aller dans le sens de ma passion première ou dans le sens de réalisation dans ce qui était aussi une passion pour moi, savoir la musique, donc être ingénieur du son ou quelque chose comme ça. J'adore les pupitres, les salles insonorisées, le matériel juste wow, que l'on voit encore maintenant. Mais j'ai eu un conseil d'un copain de Jean-Pierre qui était ingénieur du son et qui m'a montré ce que c'était ingénieur du son. Quand je lui ai dit que j'adorais, il m'a dit, si tu adores ça, garde-le en tant que passion, en tant que hobby, et fais de ce dans quoi tu es depuis toujours, à savoir le rêve que tu as, ce qui est d'être médecin, va dans ce sens. Voilà comment s'est fait en fait le choix
de la médecine,
de mon métier de médecin.
C'était le choix de médecin, est-ce que c'était aussi un rêve de famille?
C'était un rêve de famille, non. Je pense que dans les familles en général, c'est un rêve de toutes les familles d'avoir un enfant médecin. La noblesse du métier est telle qu'elle est inscrite dans les structures les plus archaïques des familles. Hein. Donc je pense, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un référentiel, disons, partagé par tout le monde. Que notre enfant soit médecin, c'est que tout le monde en rêve quelque part. Alors, juste le titre ou pas, ça c'est une autre histoire.
Et vous en rêvez justement? Pour vos enfants?
Oui, moi j'en ai. Oui.
C'est vrai.
J'en ai rêvé pour mes enfants aussi. Ouais. Hein, j'en ai rêvé pour ma fille. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Elle a commencé la pédie jusqu'au bout. Elle est devenue psychologue. Et j'en ai rêvé pour mon fils. Il a fait des études de médecine. Et là, il est en train de terminer ses études de médecine en France. Et j'en suis tout heureux.
Oui, dans la même spécialité que vous?
Pour l'instant, il va choisir sa spécialité dans un mois et demi.
Ok. Mais en même temps, pour le psychiatre que vous êtes, psychothérapeute, c'est-à-dire vous connaissez bien les mécaniques.
Psychanalyste,
exactement. Vous connaissez bien les mécanismes de réflexion, d'émotion, etc. Vous avez trouvé, alors ma question elle est peut-être tirée par les cheveux, mais est-ce que vous avez trouvé normal de rêver pour vos enfants? Parce qu'en général, on entend les spécialistes dire « Laissez vos enfants décider, laissez vos enfants rêver, laissez... » Voilà.
Oui, oui, non, mais ouais. L'un ne contredit pas l'autre. Hein, parce, ouais. Parce que on rêve de quelque chose et on dit à nos... Par exemple, là, pour mon fils, ouais. Je rêverais qu'il fasse de la psychiatrie, ce serait dommage qu'il ne la fasse pas, parce que j'ai une clinique, il y a énormément de choses à faire et il faut quand même être relativement jeune pour les faire. Je crois que j'aimerais beaucoup qu'il fasse psychiatrie, évidemment, et il le sait très bien, mais en même temps, je ne lui impose rien. Je lui dis, écoute, tu as envie de faire autre chose, tu fais autre chose. Hein. Tu es libre de faire ce que tu veux. L'essentiel étant de faire comme moi j'ai fait, d'aller dans le sens de ce qu'on a envie. Hein. Mmh. C'est important.
Alors, vous travaillez à deux. Comment vous arrivez à préserver votre couple, à le sortir de l'environnement professionnel, même quand vous êtes ensemble à la maison? Est-ce qu'il y a des règles établies, claires, qu'on ne parle pas boulot à la maison, qu'on ne parle pas boulot dans le trajet de la voie de pour revenir à la maison? Enfin, voilà.
Vous savez, dans un couple, il y a forcément des règles. Il y a ce que j'appelle des règles implicites, des règles conscientes et des règles inconscientes. Dans les règles conscientes, dans les règles conscientes, il y a ce qui est implicite, ce qui est explicite, c'est ce sur quoi on se met d'accord. Mais l'essentiel dans le couple, c'est ce sur quoi on ne se met pas d'accord. Les règles qui se mettent en place toutes seules, et avec le temps, on se rend compte que ces règles sont suffisamment bonnes ou pas. Donc, naturellement, quand les gens travaillent dans la même dans la même institution, oui. Est-ce qu'on s'oblige à ne pas parler? Je pense que s'obliger veut dire être dans la contrainte. Mm. Hein. Et je pense que c'est embêtant d'être dans la contrainte permanente. Au contraire, je crois qu'il faut s'autoriser à être dans la non-contrainte, c'est-à-dire que dans la souplesse de fonctionnement. Sinon, ça devient compliqué. Sinon, ça devient quelque chose de dispendieux en énergie, qui sollicite nos énergies et qui nous fait faire des efforts. Et quand on fait beaucoup d'efforts et en permanence, arrive un moment où on n'arrive plus à les faire. Donc, c'est important de fonctionner dans la spontanéité. Il y a des fois où c'est nécessaire de parler travail à la maison. On parle travail, mais ça nous rapproche, non pas que ça nous éloigne.
Oui, et
il y a d'autres fois où on n'a pas envie, on en a marre de parler travail, auquel cas on parle de tout et de rien, c'est comme ça que ça se passe, hein. Comme ça, c'est ce dans quoi on est, hein, depuis toujours. Je pense que le travail peut cimenter le couple comme il peut l'éloigner quand il n'y a plus rien d'autre, hein, quand on ne parle, quand il n'y a plus de possibilité de communication que de travail, qu'autour du travail, il y a un problème.
Est-ce que vous pensez, que vous auriez pu être autant engagé dans un autre domaine professionnel et préserver, mettre en place ces éléments qui font que votre vie contient un ciment, que ce soit avec vos enfants, votre épouse, si vous n'aviez pas ce background de la psychiatrie, de la psychanalyse, de la psychothérapie, si vous ne saviez pas que c'était autant important?
Je ne crois pas que c'est en termes de c'est important ou pas important. Je crois que c'est des choses qui se font d'elles-mêmes. Dans la vie, on apprend à... J'ai parlé d'aménagement. On est tout le temps dans les aménagements. Hein, on est tout le temps dans les aménagements. Ces aménagements, c'est effectivement en fonction d'un certain nombre de représentations que nous avons. C'est pas en termes d'aménagement. Quand vous parlez en termes de psychiatrie, on est dans une lecture psychiatrique des situations. Je pense que les lectures que l'on a dans notre vie personnelle ne sont pas du tout en lien avec cela. Je crois que c'est vraiment ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, ce que nous avons vécu quand on était gosses avec nos parents nous-mêmes, et ce que nous avons construit comme système représentationnel de ce que peut être la vie de couple, qui détermine notre fonctionnement dans ces situations.
Mais on évolue aussi, on apprend.
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Et en l'occurrence, pour vous, vous avez étudié ça, et vous voyez les problèmes dans votre clinique, dans votre pratique quotidienne.
Mais je vais vous dire un secret. Je ne pense pas que le fait que je sois un professionnel de la santé ait pu impacter ma vie personnelle, en toute sincérité. Je crois que c'est l'homme que je suis qui impacte, et non pas à travers, justement, les aménagements structurants liés aux expériences que nous vivons au quotidien. et avec l'effort de part et d'autre. Hein, l'effort ne peut pas être unilatéral. S'il y avait pas, si mon épouse n'était pas ce qu'elle est, on n'aurait jamais pu faire ça. Hein, donc, je pense qu'il y a ça. Ce qui était important, hein, donc il y a les choix professionnels, le choix de la profession par amour. Hein, c'est extra... Surtout qu'à l'époque, beaucoup de gens faisaient psychiatrie parce qu'ils n'arrivaient pas à faire d'autres spécialités. Hein, faut pas l'oublier. Maintenant, les gens les font de plus en plus par vocation. Mais il y a quelques personnes qui ont fait ça par amour. Dont beaucoup, dont moi en l'occurrence. Donc, et il y a eu donc cet amour que j'ai eu, cette passion que j'ai eu pour la profession de psy. Hein. Et à côté de ça, il y a eu un moment donné de ma vie, un événement majeur, c'est que j'ai eu une fille trisomique. Alors que ma première fille est une fille porteur du syndrome de Down, donc avec tout ce que ça a pu nous renvoyer en termes de ce qu'il faut faire avec l'autre, comment est-ce qu'on peut s'engager dans la vie collective, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas sans impact, quand on a les dispositions pour, bien évidemment. Oui. D'accord ? Et ça vous pousse à vous investir dans autre chose. Vous avez parlé de mes engagements, donc oui, hein, jusqu'à maintenant, et je pense que ça me suivra, ça me suivra jusqu'au bout. Hein, comme je dis souvent aux journalistes, j'ai pas besoin de ça, mais je considère qu'il est important de faire ce qu'on est censé faire quand on a la possibilité de faire. Et si on le fait pas, je pense que c'est pas normal, c'est pas possible. Il faut faire, il faut apporter ce que l'on peut apporter, et sa pierre à l'édifice, et c'est chacun qui doit apporter sa pierre à l'édifice de sa place. Tout le monde peut faire à travers ce qu'il peut, c'est ce qu'il sait, et c'est important. Et je pense que le fait que j'ai eu cette expérience de ma fille et mon investissement à ce moment dans l'association qu'on a fait développer à l'époque, elle existait, mais on a contribué à la rendre ce qu'elle est devenue maintenant, mon épouse et moi, je pense que ça, c'était aussi quelque chose d'impactant, parce qu'on ne peut pas avoir un enfant à problème sans que ça vous impacte, sans que ça modifie des choses dans vos schémas représentationnels, encore une fois.
Et aujourd'hui, elle en est où ?
Ma fille, elle a 34 ans maintenant. Elle a 34 ans et elle travaille comme pâtissière dans l'association où elle s'est développée. Elle est heureuse de vivre et elle nous donne énormément de plaisir et de satisfaction. Elle est tout amour, toute affection. Elle est un bonbon de fille. On l'adore et on remercie le bon Dieu de nous l'avoir donné, vraiment. Vraiment. Mais alors qu'au début, c'était compliqué.
Oui, j'imagine, comme vous le dites, premier enfant, en général, on pense à la trisomie quand on a un certain âge, une grossesse tardive.
Ah, oui. Mais ma femme avait 19 ans, j'en avais 25. Ouais. Donc, on était vraiment jeunes. Vraiment jeunes.
Ouais, ouais, ouais. Mais vous vous en êtes bien sortis. Ça a soudé, j'imagine.
Ben, vous savez, ça permet... Je crois, ce que je dis souvent aux gens, il y a des itinéraires de vie. Hein. Et les itinéraires de vie, ce qui peut vous arriver dans ces itinéraires de vie sont déterminants pour la construction, justement, de cette vie. Et quand vous voyez les choses a posteriori, vous vous rendez compte que c'était important qu'il arrive un grave problème dans votre vie, qu'il arrive un événement a priori malheureux dans votre vie ou heureux. Donc, ce sont des choses qui participent à la construction de votre itinéraire de vie parce que ça impacte votre manière de penser, votre manière de vous décarcasser pour l'autre, de faire ce que vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'aviez pas vécu ça. Et on remercie ensuite le bon Dieu de nous avoir permis de vivre ça. Donc c'est en fait ce que l'on peut faire de ce qui nous arrive d'impossible ou d'insupportable.
C'est ça, hein,
et c'est déterminant pour la construction de la vie. Et c'est tout ce qui peut nous arriver peut nous apporter beaucoup. Hein. Il faut partir de ce principe et ça apporte réellement beaucoup. Hein. C'est comme ça. Il faut puiser dans nos énergies, dans quelque chose, quand on est en
plein dedans, quand ça démarre. Ouais, absolument.
C'est difficile, mais après, il faut en faire quelque chose et on en fait quelque chose et ça permet de construire ce fameux itinéraire de vie.
Et c'est ça qui vous a conduit à la psychiatrie, en fin de compte.
Je pense que ça... Je ne sais pas si c'est ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que vraiment, Donc, ce qui m'a permis de rentrer dans la psychiatrie, c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est vraiment de mon cœur a vibré. Quand je vous dis mon cœur a vibré, c'est physique, c'est pas simplement émotionnel. Mon cœur a vibré avec la souffrance de l'autre. Moi, je me rappelle, je faisais des consultations avec des gens de la campagne, donc des gens beaucoup illettrés, mais qui étaient dans la souffrance majeure, et j'ai senti que le fait d'avoir cette écoute, de les entendre, de leur donner le temps d'être écoutés, de leur donner la possibilité d'être considérés, de leur donner peut-être un soutien et un accompagnement, et de leur dire écoutez, j'ai bien entendu votre souffrance, je la sens avec vous et je m'engage à vous aider à vous en libérer. Et ce que ça peut apporter chez l'autre, c'est juste waouh.
Est-ce que vous avez eu besoin d'accompagnement au début, à l'arrivée de la petite, vous en tant que couple?
Accompagnement psychologique?
Oui.
Non, parce que j'ai fait un choix un peu fou à l'époque. Hein, j'ai fait un choix un peu fou. Ma femme était fragile psychologiquement, donc j'ai fait le choix de ne pas le lui annoncer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est.
Pendant la grossesse?
Mais après. D'accord. Après la grossesse, pendant la grossesse et après. Donc elle ne l'a pas su jusqu'à ce que on ait été en France rien que tous les deux. Parce qu'on est parti avec notre fille, elle était nourrisson, elle avait quelques mois. Et elle ne l'a pas vue pendant quelques mois. Elle se rendait compte qu'elle était spéciale. On pensait que tout le monde disait qu'elle était un petit peu asiatique sur les bords, ouais, parce qu'elle avait les yeux bridés. Mais j'ai demandé au médecin de le cacher parce que elle, pour moi, il fallait qu'elle investisse sa fille sans tenir compte de cela. Oui. C'est important pour les premiers jours. C'était ma manière de penser les choses. Donc, je me suis dit, je ne vais pas lui dire. Alors, je le lui ai annoncé. Quand on était rien que elle et moi, bien évidemment, c'était difficile, c'était douloureux. Mais bon, on s'est débrouillés tous les deux. On a fait avec. Elle m'en a voulu pendant un petit moment, évidemment, de lui avoir caché. Mais bon, après, elle s'est rendue compte que c'était pas forcément une mauvaise idée.
Ouais.
Voilà comment ça.
Mais c'est quand même lourd, hein, pour le jeune homme que vous étiez à 25 ans, de prendre cette responsabilité.
Absolument.
De porter ça sur vos épaules.
Oui, il y avait une personne qui m'épaulait. Vous avez dit qu'est-ce qui est mauvais, c'est ma mère. C'est ma mère qui était comme ça à mon écoute. Elle disait avec des paroles très très sages. Elle disait écoute mon fils, si elle est là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si elle reste en vie, parce qu'on se demandait si elle restait en vie.
Ouais.
Si elle reste en vie, manifeste. Il y a certainement une raison dont tu te rendras compte plus tard, je vous assure. Hein. Donc c'était il fallait remercier le bon Dieu qu'elle soit là. Je disais ma mère, t'es complètement, tu dis n'importe quoi. mais bon, elle le pensait tellement fort et elle le disait avec tellement de conviction que bon, elle n'en démordait pas.
Ouais.
Elle n'en démordait pas et bon, j'ai fait avec. Mais elle était d'un soutien extrêmement important pour moi.
Ouais.
Bon, après, je me suis débrouillé tout seul avec mon épouse,
ouais,
et on a fait ce qu'il fallait faire pendant les 8 ou 9 années qu'on est resté en France.
Ouais. Voilà. Et après, vous avez compris pourquoi elle était là. Est-ce que vous deviez faire...
Absolument. Et c'est quelque chose d'important, je vous assure. Hein. C'est quelque chose... Si, je suis sûr que si elle n'avait pas été là, mon itinéraire de vie n'aurait pas été celui que j'ai.
Absolument.
Ça, par contre, j'en ai l'intime conviction. Donc, c'est pour ça que je lui en suis gré. Et je ne la remercierai jamais assez du fait d'avoir été là pendant toutes ces années.
Alors, une question très intime. Ça fait... Est-ce que ça fait peur de faire d'autres enfants après?
Est-ce que ça fait... Oh, on se pose toujours la question, évidemment.
Ouais.
On se pose toujours la question. La question, elle s'est posée, ça fait bien plus tard, quand notre fille a grandi, la deuxième, Hélène, elle a grandi. Et là, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un troisième ou pas?
Oui.
Et là, pour le coup, le fait qu'elle existe... si elle n'avait pas été là, on n'aurait peut-être pas fait le troisième, ça aurait été dommage d'ailleurs, parce que elle a rempli notre vie. Mais le fait qu'elle ait été là nous a amené à décider, parce qu'on ne voulait pas que tout le poids de notre fille, si les parents disparaissent, de notre aînée, de Sophia, donc la trisomique, reste par sa sœur, oui. Et donc, on a considéré qu'il était important de diluer un petit peu les responsabilités,
ouais,
Et on a fait notre fiche 10 ans après Riesland, c'était quand même pas mal. Hein, 10 ans après, on a attendu le temps qu'il fallait. Ensuite, on s'est dit que soit on prend la décision ou pas. Et on a décidé de le faire. Mmh. Et on est heureux qu'il soit là. Mmh,
mmh. Exactement. Exactement. Voilà. Bon ben... Mohamed Hachem, c'est la première fois que je vous appelle Mohamed Hachem pendant un entretien. Je pense parce que c'est plutôt personnel. Ben, d'habitude, professionnellement, c'est Hachem.
Oui, on m'appelle Hachem. Vous savez, c'est drôle, mais le Mohamed, je ne l'ai connu que quand j'ai passé mon bac, parce qu'il fallait donner les papiers officiels. Je n'ai jamais su que je m'appelais Mohamed.
Même à la maison, vous appelez Hachem.
On m'a toujours appelé Hachem. Oui, ouais. On m'a toujours appelé Hachem. Alors, ensuite, c'est resté Hachem, hein, donc. Ouais. Officiellement, c'est...
Mais au début de l'entretien, vous l'avez revendiqué, ce Mohamed Hachem.
Oui, oui, ben je pense que c'est moi. Si on doit parler de moi, c'est Mohamed Hachem.
C'est ça, exact.
c'est pas Hachem tout court. Ouais.
Mais Mohamed Hachem est intimement entrecroisé avec Hachem.
Absolument.
Ça n'en fait qu'un, au final. Oui. C'est incroyable.
Oui, ouais, c'est pas deux personnes. Il y a qu'un seul, il y a qu'un Hachem avec un Mohamed qui
l'accompagne,
qui fait le Hachem. Oui, oui.
Ouais, exactement. Mohamed Hachem Tiel, merci infiniment d'avoir été avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce bel échange.
Merci à vous.
Et je vous souhaite bon courage. Merci pour la confiance.
Merci beaucoup. Et à vous aussi.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.